L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM de centre-ville, de centre-bourg, où c'est parfois un peu triste, même quand on n'est pas confiné, même hors période de pandémie. Le dernier café qui a fermé, la boulangerie ou la pharmacie qui tient encore, mais jusqu'à quand? La boucherie disparue depuis belle lurette. Les petits commerces souffrent depuis longtemps et quand rue commerçante il y a, elle ressemble parfois à celle de la ville d'à côté. Toujours les mêmes enseignes, les habits en librairie, comme dirait Souchon, des banques, des assurances. Le commerce de centre-ville, pourtant, c'est le cœur battant parce que les services publics peu nombreux ne suffisent pas, loin de là, à animer un centre-ville. Or, en ce moment, c'est encore plus difficile pour ces boutiques. Donc, on va se pencher sur cette question avec notre invité qui est urbaniste que vous connaissez. Il était venu parler des trains de nuit. Yoann Leclèche, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la situation actuelle des commerces de centre-ville, de centre-bourg? Alors, on va s'en tenir à quelle taille de ville, en gros
C'est toujours un peu compliqué de définir un centre-ville, un centre-bourg. L'INSEE va parler de 2000 habitants, la région d'un certain nombre de services. Moi, j'ai envie de dire que la différence entre centre-bourg et centre-ville, ça va tenir en la diversité de l'offre. Donc un centre-ville, ça va être un endroit où vous allez avoir des commerces anomaux, du style les commerces pas du quotidien, donc ceux qu'aujourd'hui on va appeler commerces qui ne sont pas de première nécessité. Donc du type magasin de chaussures, magasin de vêtements, librairie, etc. Et le gros bourg, de façon générale, ne va plus avoir que des commerces d'utilité quotidienne, du style la boulangerie, du style la pharmacie, du style la boucherie. Donc ces commerces, malheureusement, selon les bourgs, selon les villes, ne vont pas prendre la même forme. Donc on va avoir des villes, des petites villes, où finalement tout va être concentré en un seul ensemble, qui va être un supermarché, un hypermarché, parfois en périphérie, parfois dans le centre, parfois une galerie commerciale. Donc il y a vraiment différents types de formes. Et parfois vous allez avoir des rues commerçantes. Alors les rues commerçantes, ça va être dans le cas des grandes villes.
Ouais, surtout ville moyenne, villes moyennes peut-être quoi. Enfin...
Oui et non en fait, ça va surtout être les villes qui vont bien résister, surtout en Bretagne, ça va être les villes touristiques.
Ah, c'est ça.
Donc ça va être des villes comme Dinan, ça va être des villes comme Auray, comme Concarneau. Donc ça va être des villes où vous allez avoir une population relativement importante et une dynamique touristique qui va apporter des clients, des chalands supplémentaires. Et vous allez avoir souvent un pouvoir d'achat assez élevé. Et vous avez un deuxième type de ville qui va bien se porter. Donc en fait, on va plutôt être sur des gros bourgs, mais qui vont avoir l'appareil commercial de petites villes, qui vont être les endroits où qui soit sont isolés, du style Carré.
Qu'ont leur propre zone, quoi, en fait.
C'est ça qui en fait, Carré, c'est 8000 habitants. Donc 8000 habitants, c'est Châteaulin, c'est...
Même pas, enfin, ouais.
Ouais, c'est vraiment des petites villes. Mais 8000 habitants en centre-Bretagne, c'est une grande ville. Donc vous allez avoir la question de l'attraction, donc des petites villes qui vont avoir des gros bassins d'attraction, qui vont avoir des bons appareils. Et puis probablement à Carré, mais dans des gros bourgs ruraux, vous avez aussi l'action des élus. Donc les élus, grosso modo, ont tendance à accepter les zones commerciales. Surtout quand ils sont en périphérie d'une autre ville. Donc si on prend Saint-Brieuc, ça va être Langueux. Ils vont dire oui à supermarché. Mais finalement, supermarché de Langueux, c'est faux. C'est supermarché de Saint-Brieuc. Donc en Finistère, ça va être Plourin, ça va être Saint-Martin, à côté de Morlaix, par exemple. Et parallèlement, vous allez avoir des communes qui vont dire non. Donc vous avez par exemple dans les Côtes d'Armor, Pouas, 5000 habitants. Le maire a dit non à une extension de Carrefour. Le maire a dit non à Leclerc. Le maire a dit non à Super-U. L'argument de ces grandes surfaces est toujours le même, c'est création d'emplois. Est-ce que ça crée des emplois?
Oui, justement, que disent les études? Parce que là, il y a la question, par exemple, d'Amazon. Bon, alors, c'est pas un supermarché, on est d'accord, mais oui, alors, ça détruirait plus d'emplois que ça n'en créerait, quoi. Enfin, est-ce que c'est le cas?
Alors, le supermarché, clairement, va détruire des petits commerces, donc des petits commerces pas forcément hyper rentables, donc avec... le poids de la main-d'œuvre, le poids du gérant qui va avoir une place importante. Donc, un supermarché détruit des emplois de petits commerces, des emplois pas forcément très rémunérateurs, mais est-ce que les emplois en grande surface le sont? Ça dépend. On va dire que ça dépend des enseignes, ça dépend des modes de gestion. Après, Amazon en soi détruit des emplois, j'ai envie de dire oui et non. Amazon répond à une demande des clients. En Bretagne, on a beaucoup de zones rurales, zones périurbaines, zones isolées. Les habitants, ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de se tourner vers le numérique, surtout en cette période. Donc, Amazon va détruire des emplois, oui, mais indirectement, parce que le commerce existant, parce que les groupements de professionnels, parce que les organisations syndicales de professionnels, parce que la CCI, parce que la région, etc., n'ont pas créé leur outil à l'issue du premier confinement. Après, ce qu'elles pouvaient, c'est dur de mettre en place un outil
aussi si gros ouais,
en peu de temps. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le principal concurrent d'Amazon, enfin en termes d'emploi, ça va être La Poste, qui est... Que finalement, les suppressions d'emplois, est-ce que c'est dans les commerces ou est-ce que c'est les suppressions d'emplois de services à La Poste qui ont permis à Amazon de prendre la niche des livraisons? C'est une question.
C'est une question. Ouais. Alors donc c'est difficile de faire une. On a compris de faire un profil de commune, enfin de ville à centre-ville commerçant. Enfin, on va peut-être pas parler des tout petits bourgs, enfin des tout petits villages, et puis pas des grosses métropoles. Enfin, en gros, on va se.
Oui, c'est ça. De toute façon, ouais. les tout petits villages, vraiment tout petits. On va même plus les appeler villages aujourd'hui. On va les appeler hameaux. Il y a plus de commerce. Alors, ouais, il y en avait dans les années 60, à l'heure de la grandeur du petit commerce. Les grandes métropoles, au fond, tendent à prendre la même direction que les villes moyennes, qui prennent la même direction que les petites villes. Donc, en fait, la question, c'est plutôt une définition, qu'est-ce qu'est une métropole, qu'est-ce qu'une ville moyenne. Mais grosso modo, la tendance est la même, des centres-villes quand même en perte de vitesse, une exurbanisation de la ville, donc la ville qui quitte le cœur de ville, en fait, et le centre réel de la ville qui deviennent les périphéries, donc où on retrouve...
Ça date de quand, ouais, ce mouvement-là
Ça date, en fait, vraiment de la croissance urbaine. La croissance urbaine, les Trente Glorieuses, la création des HLM, entre guillemets, qui plutôt destinés aux villes moyennes, des usines, des centres commerciaux. Donc, on va être, grosso modo, pour les villes moyennes, vers 1970.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Les grandes surfaces, mais accompagnées d'une croissance économique, d'une augmentation du pouvoir d'achat, donc avec des répercussions relativement faibles sur le centre-ville. Et depuis les hôpitaux, depuis les cliniques, on voit à Quimper, l'ensemble de l'emploi, parce qu'Amazon, c'est certes du commerce, mais c'est aussi de l'emploi. Donc Amazon qui s'implante à Briec, c'est de l'emploi qui quitte potentiellement le centre-ville de Quimper pour la périphérie. Donc, c'est une dynamique globale qui va s'accompagner du lotissement, qui va s'accompagner de la voiture toute puissante, des ménages bimotorisés, etc. Et donc, des villes qui continuent à vivre, en fait. Si vous prenez Saint-Brieuc, c'est une ville qui va très bien au niveau commercial, mais qui va très bien avec un centre-ville avec 30% de vacances.
Ouais, donc des boutiques vides. Et ça, ce 30%, c'est un chiffre qui est à peu près réparti partout, pareil, enfin, dans les villes équivalentes à Saint-Brieuc. Je ne sais pas, Quimper, c'est à peu près.
Alors,
ça.
Alors Quimper, c'est plus compliqué de juger Quimper, de comparer Quimper et Saint-Brieuc pour deux raisons. Parce que Saint-Brieuc va être une commune assez restreinte du fait de l'existence de banlieues. Langueux-Plérin, c'est Erguermel, c'est Kerfeintin, donc c'est des communes déjà fusionnées à Quimper, donc c'est assez compliqué de comparer des chiffres. Après, le centre-ville de Quimper en lui-même, sans être chauvin, on va dire qu'il est un peu plus beau que celui de Saint-Brieuc, même si celui de Saint-Brieuc a des charmes. Et puis, le centre-ville de Quimper, donc, a des touristes, a des crêperies, etc., qui vont... La crêperie en elle-même n'est pas un commerce, c'est plutôt un lieu de restauration, c'est un lieu de convivialité, etc. Mmh. Donc c'est une cellule commerciale occupée,
ouais, mais quand même.
C'est pas un lieu d'échange en soi. Le commerce, vraiment la notion première du commerce, c'est pas lié à l'endroit où l'échange se fait, c'est pas le lieu physique, c'est vraiment un échange d'un bien contre un autre.
Bah oui, on échange des crêpes contre de l'argent, non ça... Ah oui, les restaurants
ne
sont pas considérés comme des commerces.
On va la manger sur place, donc c'est quand même un commerce un peu particulier.
Oui. D'accord.
Et le commerce qui se porte bien en ce moment, ça va être le commerce, en ce moment, hors oui. confinement, ça va être le commerce type traiteur qui propose de manger sur place. Donc vous avez, par exemple, à Concarneau, une cave à bière fromagerie où on peut acheter du fromage, mais on peut aussi boire une bière et manger du fromage Donc tout ce genre de concept un peu novateur. Donc je reviens sur Saint-Brieuc, vous avez une pépinière, salon de thé, enfin c'est des mix en fait, un peu ce qu'on retrouve dans le domaine de la coiffure, hein, des salons de coiffure, on peut boire un café, un thé en se faisant coiffer ou en attendant, enfin c'est des concepts qui vont lier moment de convivialité et échange de biens ou de services.
Alors ça c'est hors confinement, hein, on est d'accord.
Hors confinement, malheureusement.
Voilà. C'est sûr.
Mais en gros, voilà, c'est ce
c'était
qui tend
ça qui marchait bien, d'accord.
C'est ce qui tendait du moins à se développer. Et probablement ce qui va continuer, parce que le traiteur qui propose restauration, finalement, lui, il va pouvoir proposer livraison. Enfin, c'est...
Oui.
Qu'il soit traiteur ou
eux,
restaurant.
Ils vont résister au confinement aussi.
Finalement, c'est dans les grandes villes ce qui se développait le plus par le biais d'Uber Eats et compagnie, donc de la livraison. Après, est-ce que tous ont la capacité de se mettre à la livraison ? Dans le domaine de la pizzeria, par exemple, on a une pizzeria en face de nous, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. C'est comme les fleuristes, la livraison chez les fleuristes, c'est quelque chose de d'inné. Dans d'autres commerces, style boucherie, c'est plus compliqué. Il faut des moyens nouveaux, il faut éventuellement multiplier les petits marchés de proximité. Au lieu d'avoir un gros marché une matinée par semaine, peut-être plutôt avoir plusieurs marchés avec des horaires décalés pour permettre à l'ensemble des publics, notamment les actifs, de faire leurs courses, par exemple le vendredi soir, le samedi matin, etc. Donc on est sur des problématiques vraiment différentes pour chacun des commerces.
Oui, il y a des commerces qui vont, des petits commerces qui vont sans doute disparaître. Enfin, je ne sais pas, moi je pensais aux vêtements, j'ai l'impression que c'est un commerce sinistré. On le
Alors le commerce de vêtements, j'ai envie de dire confinement, pas confinement, Covid, pas Covid, ne va pas bien, ça c'est clair. Suffit de voir Quimper, suffit de voir Vannes, Saint-Brieuc, Hors-Morlaix, on est dans une caricature, il n'y en a plus. Toutes les chaînes d'habillement, en fait, dont vous parliez tout à l'heure, toutes les chaînes qui font que toutes les rues sont uniques, quittent petit à petit les centres-villes,
voilà, même
pour les périphéries. Donc Quimper, le magasin de vêtements, va se retrouver éventuellement à Gourvilly, plutôt à Géant. Morlaix, c'est la même chose. Et puis avec le côté numérique, Internet, etc., qui va coupler. Mais aussi parce que les aires de chalandise, donc les zones d'attraction des commerces, de Morlaix, de Quimper, de Saint-Brieuc vont pas être seulement à l'échelle de la ville, mais pour Saint-Brieuc presque à l'échelle du département. Donc vous prenez un magasin, donc j'ai le trou de mémoire qui a quitté le Chapeau Rouge,
H&M,
ouais, voilà.
Bien sûr.
H&M par exemple va avoir un rayonnement qui va dépasser le centre-ville,
oui,
de Quimper.
Bien sûr, ouais.
Donc pour lui le mieux c'est d'être là où il est plus facilement accessible, et c'est pas le centre-ville de Quimper qui en voiture, quoi qu'on fasse pour le stationnement, ne sera pas accessible.
Mmh. Ah ouais, donc il y a vraiment un problème, le commerce de centre-ville et le stationnement, c'est vraiment lié
Pas forcément le stationnement, l'accessibilité. En fait, le commerce de centre-ville qui va bien, c'est le commerce vraiment de proximité.
C'est quoi, c'est un commerce de proximité ?
Donc ça va être le commerce de la vie de tous les jours, ça va être la boulangerie, ça va être le restaurant, ça va être ce qui correspond aux besoins d'achat, aux besoins de consommation locale, au pouvoir d'achat local, etc. Donc le centre-ville, en fait, devient un quartier de la ville, et plus la polarité principale, notamment parce que chez
nous... Un quartier, donc c'est pour les habitants, c'est des commerces pour les habitants du centre-ville.
Et ceux-là, ils vont très bien. Alors l'habitant du centre-ville peut être le touriste qui va venir habiter le centre-ville pour quelques jours, quelques heures, même quelques minutes. Ça peut être vous, moi, quand on va à Quimper pour se balader, acheter je ne sais pas quoi, des vêtements, acheter, boire un coup, manger dans un restaurant quand c'est possible.
Mais ça, ça ne suffit pas alors. C'est ce qu'on comprend, quoi.
En fait, si vraiment vous voulez aller à Quimper, vous y iriez.
Ouais.
Le problème, c'est que en tant que consommateur lambda, surtout en tant que consommateur pressé, on ne va pas forcément faire l'effort d'aller à Quimper.
Mais alors, est-ce que c'est aussi notre rapport au temps c'est parce que notre rapport au temps a changé que le shopping en centre-ville ne fonctionne plus, enfin, quelque part, quoi.
C'est ça, rapport au temps, rapport à l'argent, parce que les gens n'ont pas forcément déjà les moyens de consommer comme ils faisaient avant, malheureusement. Pas les moyens parce que le pouvoir d'achat baisse et parce que l'achat immobilier, notamment en Sud-Finistère, va être de plus en plus cher, donc l'endettement de plus en plus fort, donc les périodes propices à la consommation de plus en plus faibles. Et après, rapport au temps, oui, parce que certes, le temps de travail est passé à 35 heures, Mais avec toutes les activités, avec tous les temps de déplacement, etc., finalement, la vie est un long fleuve, mais pas tranquille. Donc,
c'est vrai.
Un long fleuve pas tranquille, guidé par des routes. Et le plus propice, quand on est sur la route, c'est de sortir un échangeur, de sortir un rond-point et de faire l'achat au supermarché, à la boulangerie qui va se trouver. Donc,
les drive.
Alors, en drive, moins par ici. Le drive, boulangerie drive, c'est plutôt le secteur de Saint-Brieuc. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que les costa-ricains sont globalement plus précaires, je ne sais pas.
C'est l'offre qu'ailleurs. Peut-être aussi. Enfin, on en a une à Châtelain qui marche très bien, en tout cas.
Alors, oui, il y en a quelques-unes, mais vraiment, Saint-Brieuc, il y en a une presque par rond-point. Donc, c'est vraiment.
Oui, en effet, on est moins doté.
Quand je dis Saint-Brieuc, le très grand Saint-Brieuc, qui va aller même de Lannion à Lamballe. Mais dans les Côtes d'Armor, ce sont vraiment précurseurs dans le domaine. Pourquoi, je ne sais pas, mais de façon générale, les boulangeries vont quitter les centres-bourgs, centres-villes. Pour les périphéries, pour les ronds-points. Alors ça reste une boulangerie, ça reste un artisan. Par contre, pour le client, là, je parle pas pour le concurrent, mais pour le client, c'est une boulangerie qui va être ouverte de 7h du matin à 20h le soir. Donc on rentre du travail, on peut acheter du pain frais. Ça va être des boulangeries avec plus de personnel aussi. Et finalement, le petit commerce traditionnel de centre-bourg, centre-ville va avoir du mal à s'adapter, sauf s'il se place sur un autre créneau, par exemple le pain bio.
Ouais, mais alors si le commerce de centre-ville devient juste le commerce de quartier pour les habitants du centre-ville et quelques touristes de temps en temps, comment est-ce qu'il va pouvoir subsister ? Parce qu'il faut il y a un modèle économique quand même derrière tout ça là.
Alors il y a un modèle économique et on le voit là en ce moment, c'est difficile pour certains. Et d'ailleurs j'en profite pour faire une petite remarque, c'est les commerçants là sont en période quand même difficile, voire très difficile. Ils râlent, ce qui est normal, on les entend râler, mais quand on regarde dans le détail, leurs mobilisations sont relativement faibles, quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Comparé au nombre de commerçants d'un département, c'est assez ridicule. Et ça veut dire quand même beaucoup, parce que ça veut dire que le commerçant n'a pas forcément la force d'aller se plaindre, et un commerçant qui ne se plaint pas, c'est souvent un commerçant qui ne va pas bien du tout. Donc là, c'est plus un message d'alerte que je fais. Je trouve que les commerçants, on les entend pas beaucoup en ce moment, on les entend pas beaucoup se plaindre et c'est plutôt inquiétant.
Bon, c'est peut-être parce qu'ils sont atomisés aussi et qu'ils ont du mal à se regrouper. Quoi. Ils sont chacun un peu dans leur
atomisés,
coin.
Atomisés, oui, mais les réseaux sociaux justement regroupent. Donc moi j'ai peur que...
Ça serait de la dépression, un signe de dépression profonde. Quoi.
Ou pas forcément de dépression, mais de
résignation. Quoi.
De résignation, ouais. Enfin, pour avoir côtoyé beaucoup comme de commerçants, le commerçant qui se plaint pas, c'est pas forcément un bon signe. Mmh. Et inversement, le commerçant qui se plaint, c'est pas forcément très inquiétant, au moins pour l'avenir de son commerce en lui-même. Pour lui, oui, mais pour le commerce en lui-même, non. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà ? C'est se mettre tous ensemble autour d'une table. J'ai envie de dire, c'est la base et c'est quelque chose qui est pas forcément fait. C'est aller voir chaque commerçant, aller voir chaque professionnel. Donc, chaque commerçant qui tient un commerce physique, mais pas forcément d'ailleurs, chaque commerçant en ligne, on a beaucoup de personnes qui vendent sur Internet sans être des commerçants, qui vont vendre des masques, qui vont avoir éventuellement besoin d'un relais local. Et c'est finalement donner aux commerçants un rôle politique au sens premier, au sens agir sur la ville, au sens agir sur le quartier, etc. Donc, faire en sorte que le commerçant qui va être la personne qui va agir en premier pour l'animation d'une rue, d'un commerce, c'est le rôle premier du commerçant. Le commerçant va vendre un livre, certes, mais ça va être le premier lien social de beaucoup. Vendre un livre, le livre, il va être le même sur Amazon, à Leclerc ou à la librairie de proximité. Donc, en soi, c'est pas le livre qu'on achète en allant chez le commerçant.
Oui, d'ailleurs,
c'est le conseil,
y a beaucoup de cafés, librairies.
C'est le lieu, c'est le conseil, c'est l'humain, c'est
la flânerie.
C'est la flânerie, c'est finalement pouvoir faire confiance à la ligne éditoriale d'un commerçant. Là où chez Amazon, j'ai acheté tel livre, et il vous propose un truc similaire parce que l'algorithme sait que on a bien aimé celui-là ou pense que. Là où en discutant avec un libraire, mais un bibliothécaire aussi, c'est exactement la même chose, un boucher, un traiteur, etc. Donc vraiment, en écoutant et en pensant tout ce qui est revitalisation de centre-ville, centre-bourg, peut-être pas tout de suite en termes de travaux,
Ah oui, voilà,
probablement
c'est ça.
Pas tout de suite. Donc je devance.
Alors
un
on
peu...
y vient, on y vient. Ouais. Donc parce qu'en fait, la revitalisation de centre-ville, c'est, j'ai l'impression que c'est devenu super à la mode. Enfin, il y a plein de projets, il y a de l'argent, etc. Comment ça se passe en vrai et comment il faudrait que ça se passe plutôt?
Bah en vrai, il y a de l'argent. Donc s'il y a de l'argent, suffit de répondre à un appel à projet, appel d'offres, appel à manifestation, coller à cet appel et puis bénéficier de l'argent. Enfin, c'est un peu cynique ce que je dis, mais c'est malheureusement souvent comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, j'ai envie de dire, on est en période...
En fait, les communes, ce qu'elles font, c'est qu'elles font surtout des travaux, c'est ça, des aménagements, de la végétalisation
globalement,
et tout.
Oui. D'accord. Et des fois, pas forcément en consultant, concertant, enfin, les habitants, les commerçants, etc. Donc, revitalisation, moi, il y a un terme que j'aime pas trop, c'est le préfixe « re ». Il y a un côté nostalgique, il y a un côté à l'ancienne. Et malheureusement, le commerce de 2020, c'est pas le commerce, même déjà de 2019, c'est pas le commerce de l'âge d'or du commerce dans les années 60 ou même dans les années 70-80. Donc il faut vraiment repenser ça. Et pour moi, ce qu'il faut vraiment faire, c'est penser à remettre l'humain. Donc un commerce, c'est un lieu humain. Un commerçant, c'est quelqu'un, ils vendent un produit, un service, mais ils vendent l'humain. Enfin, le salon de coiffure... on y va pour se faire couper les cheveux, mais on discute plus, etc.
Ouais, sûr,
enfin,
ouais.
C'est finalement le commerçant de proximité vend de l'humain. Et dans vitalisation, il y a aussi vie. C'est redonner un sens aux vies, c'est redonner de la vie, redynamiser, ce qu'on veut. Mais c'est pas refaire à l'ancienne.
C'est ça.
Donc c'est créer quelque chose de nouveau, créer une ville nouvelle, une ville sur la ville, en fait. Si on prend une ville comme Naples, donc là, on n'est plus... du tout dans les petites villes.
Non, mais c'est pas
villes.
Grave, allons plus.
Mais plaisir, une ville comme Naples, vous prenez une pelle, vous creusez, vous avez le Naples de maintenant, vous avez le Naples d'il y a 10 ans, le Naples... Et en fait, c'est ça, c'est les villes sont en perpétuelle innovation, reprennent des bouts d'avant, reprennent des bouts d'encore avant, détruisent, modifient, s'adaptent. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, que la ville, le bourg, va être unique et qu'on aura beau copier un modèle qui a fait ses preuves ailleurs, c'est possible qu'il ne fasse pas ses preuves, dans la ville. Si on prend Pleyber-Chrysse, par exemple, vous avez des belles friches commerciales toutes récentes en entrée de ville, de bourg, quand on vient de Morlaix. Donc
ça n'a pas marché, quoi. Ouais.
Je dirais pas que ça n'a pas forcément pas marché, parce qu'il y a du logement, mais ça ne répondait pas forcément à la demande des professionnels ou des habitants. Donc il y a un super-U déjà en amont qui va faire filtre. Donc c'est difficile de concurrencer un super-U quand on a un petit commerce. Et après, il y a le lien à l'école, par exemple, qui est important. Donc ce programme-là est loin de l'école. Et l'école, c'est pareil, c'est la vie. Donc c'est la vie et la vie piétonne. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on ne va pas dans un commerce en voiture, à part dans un drive, on y va à pied, même si c'est que 10 mètres, c'est le lien humain, le lien piéton. Et là, on est en période donc, de crise sanitaire, etc. On est en Bretagne, des fois il pleut, un commerce, c'est 2-3 personnes à l'intérieur, si on respecte les règles. Les gens, ils attendent où? Enfin, c'est tout bête. Mais aller voir les gens, leur dire comment ils veulent que leur espace devant chez eux soit aménagé, pour moi, c'est une priorité à mettre en œuvre, à mettre en place avant qu'il ne pleuve, donc assez rapidement. Et puis, une fois qu'on a résolu le problème du stockage, entre guillemets, des personnes sur la voie publique, il y a la question de l'animation de la voie publique qui peut se mettre en place, la question de micro-marché aux périodes de pointe ou pas. Enfin, finalement, on est sur des questions qui peuvent se faire à faible coût et sans travaux. Enfin, au pire, il suffit de condamner une place de parking, ça peut se faire par un pot de fleurs. Enfin,
ça s'est fait un peu d'ailleurs à la fin du premier confinement, en mai, il y a eu des aménagements temporaires.
C'est ça, et même pendant le premier confinement, enfin, on voyait le regain en fait, de la vie sur des petites places. Enfin, un exemple que je prends parfois, moi j'habitais Bénodet pendant le premier confinement, donc il y a un peu de touristes. Mais il y a des restaurants. Les restaurants ont dû se priver d'une partie de leur clientèle parce qu'ils ne pouvaient pas accueillir tout le monde dans le cadre des mesures sanitaires. Donc il y a une pizzeria, une crêperie qui ont décidé de créer, probablement en accord avec la mairie, une terrasse commune sur une petite place et qui ont mesures barrières, aménagement de la place, de la rue, etc. Mais qui en ont profité pour faire venir des musiciens. Bon, voilà. C'est bien pour eux, c'est bien pour les clients, mais finalement, c'est bien aussi pour le quartier, pour les habitants, en condition d'aimer le style de musique. Donc ça, c'est ça.
Ah, c'était en journée, de toute façon, non. le
soir, un petit peu. Les journées se finissent tard. Mais voilà, c'est des choses bêtes et méchantes. C'est des repenser l'accès au magasin, repenser l'intégration du magasin dans la rue, repenser la rue piétonne, la rue cyclable. Donc là, Bénodet, c'est un peu une caricature parce qu'on a des touristes qui viennent de la ville, etc., où l'usage de la voiture est plus faible que chez nous.
Ouais, donc ils sont habitués à se passer leur voiture.
C'est ça, et puis il faut répondre aussi à leurs demandes. Enfin, ouais. Si on prend Bénodet, il y a concrètement un problème de conflit d'usage de l'espace public entre vélo et cyclable. Donc Bénodet, il faut repenser, même redonner de la place aux mobilités actives, comme on dit, donc vélo-marche. Donc là, on est vraiment sur la caricature, mais c'est quelque chose qu'il faut repenser, c'est quelque chose, penser le lien au commerce, commerce-ville, en fait, tout simplement.
Donc c'est, pour que ça marche, il faut de la concertation, on l'aura compris, bon, on est loin
la
d'avoir...
Discussion.
Ouais, la discussion. Oui, la discussion, pardon.
Concertation, on est dans un...
Oui, c'est vrai, c'est un processus plus officiel,
voilà.
Au moins de la discussion. Bon, alors on est loin d'avoir épuisé tout le sujet, évidemment, il en reste. Bon, vous reviendrez, hein, Iwan
Leclèche,
merci.